Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. À quelques jours de l'ouverture de la COP26 qui démarre le 31 octobre prochain à Glasgow en Écosse, notre invitée est Catherine Le Gall pour son dernier ouvrage « L'imposture océanique, le pillage écologique des océans par les multinationales ». Catherine Le Gall, vous êtes journaliste, bonjour.
Bonjour.
Votre livre, Catherine Le Gall, c'est un cri du cœur face aux attaques que subissent les pêcheurs bretons accusés de pratiquer la surpêche et de massacrer les dauphins. On a même entendu des ONG prétendre que la France était le pays qui massacrait le plus de dauphins en Europe. Là où, et on en parlera bien sûr, des menaces qui pèsent sur les océans, mais pour en rester aux seuls produits de la mer, d'abord peu de gens en connaissent les noms, contrairement aux entreprises de l'alimentaire. Elles dominent un secteur mondial pesant plus de 400 milliards de dollars par an et sont les principales responsables de l'industrialisation des océans. Elles sont en grande partie à l'origine de la destruction de la pêche artisanale, de l'effondrement des stocks de poissons mondiaux et de la crise de la pollution plastique qui frappe les océans. Des sociétés très opaques, un secteur très concentré. De quoi les pêcheurs, en l'occurrence bretons, puisque c'est le sujet de votre ouvrage, de quoi les pêcheurs sont-ils la cible, Catherine Le Gall ?
Alors déjà, j'ai bien aimé votre introduction, c'est-à-dire que c'est effectivement un cri du cœur. J'y repensais encore hier et c'est vrai que, en fait, à travers ce livre, j'ai voulu effectivement dire ce que je pensais de la politique climatique et je l'ai fait aussi pour mes enfants, pour le futur. Mais concernant les pêcheurs, en effet, depuis plusieurs années, ils sont la cible d'ONG environnementales qui les accusent d'être les principaux responsables de la détérioration des stocks halieutiques. Et donc, moi, j'habite à quelques kilomètres du port artisanal du Guilvinec, qui est le premier port artisanal de France. Il y a environ 200 bateaux. La moyenne des bateaux, à peu près, c'est 14 mètres, 3 marins par bateau. Donc, c'est des tailles encore assez réduites. Et depuis que je suis toute petite, je vois le phénomène des algues vertes sur le littoral breton. Et puis, je me dis, mais enfin, est-ce que ces algues vertes n'ont pas un impact, elles aussi, sur le milieu marin? Est-ce que c'est les pêcheurs qui sont les principaux responsables de ce qui se passe? Est-ce qu'on pourrait pas braquer les projecteurs ailleurs? Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce livre, parce que j'ai voulu creuser un peu plus loin et voir s'il n'y avait pas d'autres responsabilités que celles des pêcheurs bretons, en fait.
Alors, on va les braquer, hein, comme vous le dites, les projecteurs ailleurs, Catherine Le Gall. Mais pour poursuivre avec cette question des pêcheurs, est-ce qu'on peut parler de mouvements d'accaparement qui visent à les évincer de leur zone traditionnelle au profit d'activités industrielles? Et est-ce qu'ils sont, ces pêcheurs, finalement victimes d'un discours écologiste qui les désigne comme les principaux responsables des maux qui dévastent les océans? D'ailleurs, on pourra les rappeler, ces mots. Qu'en est-il vraiment ?
Effectivement, c'est ce que j'ai voulu creuser. Donc l'IPBES affirme que les pêcheurs et la pêche industrielle, mais aussi la pêche artisanale, sont responsables de 55% des problématiques sur les océans, mais qu'il y a d'autres facteurs et que donc qui sont généralement tus ou pas suffisamment mis en lumière. Et donc, est-ce que les pêcheurs sont des victimes ? Je dirais que ce sont des victimes indirect d'un conflit d'espace qui se passe aujourd'hui sur les océans. C'est-à-dire qu'il y a effectivement énormément d'acteurs qui aujourd'hui veulent prendre possession des richesses océaniques. On parle là des multinationales, on parle également des différentes industries, mais aussi il y a une pression, je dirais, de la part des ONG, hein, des environnementalistes qui veulent préserver une partie des océans. Et évidemment, une pression de surpêche, hein, je ne nie pas la surpêche. Et donc, les pêcheurs, ils se retrouvent pris là-dedans, pris dans ce conflit actuel où les océans deviennent un enjeu majeur au niveau international et ils se retrouvent de fait évincés de certaines zones alors que dans ces zones-là, quelquefois, on accepte par exemple du tourisme dit écologique et donc ils se retrouvent en effet évincés de zones où auparavant ils pouvaient pêcher tranquillement. Donc oui, victimes indirectes d'une politique climatique qui à mon sens, n'est pas la bonne, mais ça, on va en discuter.
Alors, précisément, Catherine Le Gall, pourquoi les ONG s'en prennent-elles aux pêcheurs ?
Alors moi je dirais que c'est parce que c'est quelque part la cible la plus facile. D'ailleurs, dans mon livre, hein, je parle principalement de Bloom et Sea Shepherd. Et
donc, deux ONG.
Deux ONG en effet. Et donc en parlant avec Bloom, ils me disent mais c'est comment dire, la pêche c'est là où on peut avoir le plus d'action finalement parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à atteindre. Effectivement, par exemple, il y a l'exploration actuelle des grands fonds marins pour éventuellement l'exploitation. C'est sûr que c'est plus compliqué. Il y a également la détérioration des coraux. C'est plus difficile d'agir sur les facteurs. Donc finalement, les marins ils sont sur la mer. Ils sont physiquement identifiables, ils sont, je ne dirais pas des cibles faciles, mais des cibles visibles. Mmh. Et donc, les ONG, ces deux dont je parle, en ont fait leur principale cible. Et donc, je ne dis pas qu'elles ne le font pas avec sincérité. Je dis juste qu'elle contribue à braquer les projecteurs donc sur les marins et surtout à occulter toutes les autres raisons qui dégradent la santé des océans. Et je trouve qu'aujourd'hui, si vous voulez, ce discours-là, il est un peu entre guillemets facile et qu'il facilite le travail des industries ou des multinationales qui sont bien contentes de pouvoir rester dans l'ombre et du coup, on ne braque pas nos yeux sur ce qui se passe à terre ou pas assez. Qui a un impact sur l'environnement marin, mais aussi toutes les activités traditionnelles et les nouvelles activités qui vont émerger grâce aux nouvelles technologies, qui vont être les énergies renouvelables, pour l'instant l'exploration, mais peut-être bientôt l'exploitation des minerais polymétalliques, les génomes marins qui sont intéressants pour les industries pharmaceutiques. Voilà, et tout ça, il faut en parler, quoi. Et donc, moi j'habite en Bretagne, le constat que j'ai fait sur mon territoire, je me suis rendu compte que les marins étaient la cible. C'est mon point de départ pour quelque part critiquer la politique climatique actuelle. Donc il s'avère que ça a fait de moi quelqu'un qui défend les marins bretons. Bon, mais surtout mon cri entre guillemets du cœur, comme vous dites, c'est de dire. Arrêtons de regarder toujours dans la même direction. Décentrons notre regard et allons interroger. Ce qui se passe dans la politique climatique et comment, quelque part, elle est influencée, justement, par les industries multinationales.
Voilà. Alors, les facteurs, finalement, de dégradation de la mer, vous l'avez évoqué précédemment en parlant des algues vertes, c'est la question de la pollution agricole, essentiellement. Et l'extraction de minerais, ça, c'est peut-être plus à venir. On reste un tout petit peu sur la question des ONG. Qui les finance, ces ONG ? Vous en avez cité deux, Bloom et Sea Shepherd. Qui se trouve derrière ces ONG, Catherine Le Gall ?
En fait, donc déjà, elles disent ce qui est réel, hein, qu'elles sont principalement financées par des dons particuliers, mais elles sont également financées par des fondations philanthropiques dont je décris un peu le fonctionnement et leurs différents intérêts dans le livre. Donc, par exemple, pour Bloom, elle a été longtemps financé par Pew, qui est une ONG nord-américaine, mais qui finance également beaucoup d'autres structures. Et puis, Sea Shepherd, en tous les cas, l'antenne américaine, a été financée jusqu'en 2016 par des grandes fondations philanthropiques qui, par ailleurs, financent également The Nature Conservancy ou WWF. Et donc, ces financements font qu'elles font partie de la galaxie, en fait, des différentes ONG qui sont financées par les fondations et ça les place dans cette galaxie d'ONG nord-américaines libérales qui proposent de protéger la nature via des mécanismes de marché.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Alors, ces fondations philanthropiques, effectivement, vous développez dans votre ouvrage la part qu'elles ont prise et qu'elles prennent aujourd'hui dans les débats climatiques. Leur origine, essentiellement, des fondations américaines, Catherine Le Gall ?
Donc en fait, c'est un sujet qui est quand même très développé aux États-Unis et qui est assez peu connu ici en France. Donc je me suis appuyée sur des travaux d'un chercheur, Monsieur Tournès, qui évoque en fait les premières fondations philanthropiques au début du siècle. Donc il s'agit de celles de Rockefeller. Et en fait, les fondations philanthropiques, elles sont fondées par des dirigeants d'entreprises qui ont fait fortune dans différentes industries. Par exemple, Rockefeller, le pétrole, et qui, paradoxalement, après avoir détérioré la nature et même les relations sociales et les employés, les salariés, de par les conditions de travail qu'il y a dans leurs entreprises, arrivent à la fin de leur vie ou bien en milieu de carrière, se disent, bah tiens, il faudrait quand même que j'agisse pour le bien commun. Et donc, du coup, ils créent ces fondations et ils vont s'intéresser au bien commun et au domaine public et à l'intérêt général. Très bien. Moi, ce qui m'interroge, c'est que finalement, ils arrivent à s'occuper du bien commun, mais avec des idées libérales, des idées de quelque part du secteur privé qui ont toujours été les leurs. Et en fait, il y a un peu cette conviction chez les dirigeants créateurs de fondations philanthropiques de se dire que eux, ils sont mieux à même parce qu'ils ont fait du management, parce qu'ils ont dirigé des grosses multinationales, ils sont mieux à même de trouver les solutions aux problématiques actuelles. Donc là, Rockefeller, c'était les problématiques de santé, par exemple. Mais aujourd'hui, ça va être les problématiques environnementales. Et donc, on arrive avec des fondations et des hommes. Donc là, dans mon livre, je parle d'hommes, par exemple, qui sont issus de la nouvelle technologie, comme Packard, Moore, qui prétendent, en fait, savoir, en tout cas, soutenir les meilleures solutions pour protéger l'environnement. Et ces solutions-là, elles ont deux intérêts pour eux, je dirais, mais une fois de plus, ils viennent de là. C'est de pouvoir continuer de produire à terre et de pas trop remettre en cause les industries polluantes. Et puis, l'autre intérêt, c'est que ça permet de faire du business avec la nature. Faut dire les choses comme elles le sont.
Alors, effectivement, changement climatique vendu comme une opportunité économique. On y retournera, bien sûr, Catherine Ogal, avec vous. Quelques mots sur, alors précisément, ces fondations philanthropiques. Elles prétendent remplacer les États?
C'est la grande question. C'est-à-dire que, pour l'instant, elles n'y sont pas. Mais par contre, c'est intéressant parce que, dans mon livre, comme vous l'avez vu, je me suis appuyée sur des travaux tels que ceux de Christophe Bonneuil, qui est historien des sciences, ou Grégoire Chamaillou, qui est philosophe, et qui raconte bien que dans les années 70, en fait, quand a émergé la conscience écologique, en même temps, notamment Nixon a mis en place des réglementations assez drastiques pour limiter la pollution des industries. Et ça, évidemment, pas du tout plus industriel. Ils se sont dit, on se retrouve limité dans notre action, c'est pas possible. Et donc, rapidement, à la place de subir ces réglementations, ils se sont dit, mais non, il vaut mieux qu'on se mette à la place du conducteur et quelque part qu'on influence les législations d'État. Et donc, ils vont pas remplacer les États. Mais par contre, ils vont faire en sorte de pouvoir avoir une influence sur les décisions qui sont prises. Et ça prend différents biais. Moi j'ai appelé ça les armes de persuasion massive dans mon livre, mais il y a les associations professionnelles qui regroupent les grosses multinationales comme le WSCD, The World Business Council of Sustainable Development. Il y a les fondations philanthropiques et puis les ONG nord-américaines libérales, qui tous les trois sont des courroies de transmission en fait de cette idéologie. Idéologie de l'écologie libérale. Je dis idéologie, je m'étonne moi-même, mais oui, parce que eux, ils disent qu'ils se basent sur des faits. Mais on peut quand même interroger le fait de ne croire qu'au mécanisme de marché pour sauver la nature.
Alors, vous avez tout un développement, Catherine Le Gall, sur fonds privés versus fonds publics. Alors, pour justifier le recours aux fonds privés, vous dites que les gouvernants soulignent les écarts entre les sommes consacrées à la protection de la biodiversité et celles dont on a réellement besoin. Et vous allez plus loin, vous dites que les raisons pour lesquelles les caisses de l'État ou des États sont vides, c'est le coût de l'évasion fiscale au niveau mondial, que vous chiffrez à 427 milliards de dollars par an. Et vous soulignez l'ironie à voir que ce sont les mêmes acteurs qui privent les États de leurs subsides et qui proposent ensuite leurs services pour mener à bien des missions d'intérêt général que nous évoquons depuis le début de cette émission.
Bah, c'est vrai que c'est assez choquant quand vous dites est-ce que les fondations ont vocation à rappeler les États. Non, mais tout de même, les dirigeants d'entreprises et de multinationales qui sont à la tête de ces fondations et qui les ont créées, effectivement, sont à l'origine d'optimisation fiscale, sont à l'origine quelquefois d'évasion fiscale, et donc ils veulent pas remplacer les États, mais n'empêche qu'ils les affaiblissent vachement. C'est-à-dire qu'ils affaiblissent les politiques publiques. Et donc, du coup, même si les États avaient la volonté politique de protéger la nature avec des mécanismes législatifs, c'est-à-dire en étant contraignants, ce qu'ils n'ont pas d'ailleurs, mais si jamais ils en avaient la volonté, en tous les cas au niveau européen, ça se trouve, ils pourraient même pas le faire parce qu'ils n'ont pas, en tout cas, ils disent ne pas avoir les moyens financiers de le faire. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que du coup, le fait qu'il manque d'argent public va justifier la monétisation et la financiarisation de la nature, parce qu'effectivement il y aurait, c'est chiffré, hein, il y aurait un gap de 800 milliards d'euros par an d'ici à 2030 pour protéger la biodiversité, et donc on va les trouver où ? Si on ne les trouve pas dans les caisses publiques, eh ben on va les trouver au niveau du secteur privé. Et comment est-ce qu'on va attirer le secteur privé ? On va l'attirer en donnant un prix à la nature, en disant voilà. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que du coup, l'homme n'est pas considéré comme faisant partie d'un tout, ne faisant partie de la nature, en faisant un composant essentiel, je veux dire vital, mais on objective la nature, elle est devant nous, voilà, et elle nous rend des services écosystémiques. Et ces services écosystémiques sont soi-disant inaperçus. Et donc, pour les rendre visibles, il faut leur donner un prix. Et donc, effectivement, on va donner un prix aux coraux, on va donner un prix aux baleines, on va donner un prix aux requins, en fonction des services qu'ils nous rendent. Et donc là, dans ce cas-là, la nature, elle devient un produit. Elle devient non seulement un produit qu'on protège, mais aussi un produit qu'on achète. C'est-à-dire qu'on lui donne une valeur, et puis on va dire aussi, mais attendez, parce que comme on l'a monétisée, comme on l'a financiarisée, elle peut être rentable. Et donc, on va promettre aux investisseurs, par exemple dans des fonds d'investissement, 2 à 3% de rentabilité, voire plus, et nous voilà avec une écologie qui promet un retour sur investissement. C'est quand même assez, en tout cas moi, ça me choque.
Alors, retour sur investissement, sur fond de risque d'accaparement des océans. Et vous parliez précédemment d'un conflit d'espace sur les océans, Catherine Le Gall.
Oui, effectivement. Donc, du coup, on se retrouve avec un conflit d'espace. On pourrait parler, par exemple, des mangroves. Vous avez reçu la semaine dernière quelqu'un qui parlait des forêts et du fait qu'effectivement, protéger les aires exclut, en fait, les populations locales. Ben, c'est la même chose sur les océans. C'est-à-dire que là, donc l'objectif, c'est de protéger 30% des aires marines. Et donc, en les protégeant, on exclut aussi des usagers que sont les pêcheurs. C'est-à-dire que, par exemple, aux Seychelles, l'AMP autorise, par exemple, certains touristes à aller dans des zones.
AMP, c'est les aires marines protégées.
Excusez-moi, les aires marines protégées. Et vont en exclure des pêcheurs. Donc là, il y a un problème, effectivement, d'exclusion de certains usagers. Il y a d'autres problèmes aux Seychelles, on pourra y revenir. Mais par exemple aussi dans la baie de Saint-Brieuc, pour les éoliennes, les pêcheurs doivent aussi respecter une certaine réglementation et se retrouvent exclus de zones de pêche. Donc il y a une exclusion là aussi. Et d'ailleurs, des travaux de chercheurs montrent que la protection des océans exclut de fait certains pêcheurs, par exemple au Brésil ou en Afrique. Et ce qui questionne quand même, c'est que dans pas mal d'exemples, l'exclusion des pêcheurs les fait au profit du tourisme. Alors ça, moi, ça m'interroge. Et d'ailleurs, je le vis sur mon territoire aussi. Et donc, si on exclut les pêcheurs au profit du tourisme, il faut quand même savoir que le tourisme est une industrie très polluante, que le tourisme côtier et le tourisme maritime sont très dangereux pour les côtes parce que ça les affaiblit, et que comme ça les affaiblit, ça affaiblit aussi leur capacité à recevoir du tourisme, donc ça les affaiblit écologiquement et économiquement. Et donc, je ne crois pas que remplacer l'industrie de la pêche par l'industrie du tourisme soit une très bonne idée. Sachant pour finir que l'industrie du tourisme est responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial.
Et il y a un côté assez cynique chez les organisations non gouvernementales que vous avez évoquées. Alors déjà, certaines prétendent que pour éviter la surpêche, eh bien, il faudrait manger moins de poissons et orienter les pêcheurs au chalut vers l'aquaculture. Et certaines ONG qui vont encore plus loin et qui proposent de dissoudre la pêche dans le tourisme, vous l'évoquez, en reconvertissant certains pêcheurs en guides touristiques, on ne leur a pas demandé leur avis, ou inciter les pêcheurs à rejoindre des programmes qui les forment et les emploient comme gardes des zones maritimes protégées. Un commentaire que l'on poursuivra dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve, Catherine Le Gall, après le journal. À tout de suite.
Vous voulez réinventer Géopolitique, Marie-France Chatin.
Notre invitée Catherine Le Gall pour son dernier ouvrage « L'imposture océanique, le pillage écologique des océans par les multinationales ». Catherine Le Gall, on a terminé la première partie de l'émission. Je parlais du cynisme des organisations non gouvernementales, finalement qui proposent de dissoudre la pêche dans le tourisme en reconvertissant certains pêcheurs en guides touristiques ou inciter les pêcheurs à rejoindre des programmes qui les forment et les emploient comme gardes des zones maritimes protégées. Votre commentaire ?
Oui, c'est vrai. Ce qui est intéressant dans votre question, c'est qu'elle rejoint la question de la monétisation et de la financiarisation de la nature. Parce qu'on ne leur propose pas ça dans n'importe quel contexte. On leur propose ça dans le contexte où, en fait, leur reconversion s'inscrirait dans un programme de financement des aires marines protégées. C'est-à-dire que les aires marines protégées, elles vont offrir un cadre naturel, attractif pour le tourisme. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire, les aires marines protégées aujourd'hui demeurent malheureusement assez inefficaces parce qu'elles manquent cruellement de financement. Et même les gens qui sont pour les aires marines protégées le disent, la majorité d'entre elles sont inefficaces. Donc, un petit aparté, avant de vouloir les étendre, ce serait quand même déjà bien de les rendre effectives. Je ferme la parenthèse. Concernant les aires marines protégées, comme elles manquent de financement, la solution est qu'elles s'autofinancent. Et donc, pour qu'elles s'autofinancent, on ouvre la possibilité, certaines ONG, de développer l'industrie du tourisme écologique, c'est-à-dire que des touristes peuvent venir sur les aires marines protégées pour justement apprécier les biens naturels, les services écosystémiques. Et puis, comme les pêcheurs n'ont plus leur place dans les aires marines protégées, effectivement, certains programmes proposent qu'on les reconvertisse en guide touristique pour promener les touristes qui le souhaitent. Alors donc effectivement, moi mon regard, c'est que ça me choque pour deux raisons. Déjà effectivement, dans ce cas précis, on peut dire que le conflit d'espace qu'il y a sur les océans, se fait vraiment au détriment des pêcheurs. Donc quelque part, les pêcheurs en tant que professionnels de la pêche sont évincés de ces zones-là. Et en plus, les touristes viennent les remplacer. Donc les touristes, ils commettent des dégâts écologiques tout à fait prégnants de manière globale et tout à fait prégnants sur les espaces marins et les espaces côtiers. Par exemple, les navires de croisière, imaginons que c'est un navire de croisière qui amène les touristes dans l'aire marine protégée, aujourd'hui, il y a des mastodontes qui peuvent contenir jusqu'à 8000 passagers, et ils sont représentatifs de 1% de la flotte marchande, et c'est 25% des déchets. Donc, en plus, ils amènent des espèces invasives avec eux, ils sont loin d'être neutres d'un point de vue écologique. Donc, une fois de plus, remplacer les pêcheurs par l'industrie du tourisme, ça ne me semble pas être une très bonne opération.
Alors effectivement, et on ne l'a pas cité, mais vous avez parlé des Seychelles précédemment. Il y a aussi le Brésil où les pêcheurs artisanaux se voient interdire l'accès à certaines plages pour cause de tourisme, à certaines zones maritimes au profit de l'aquaculture et des énergies renouvelables. On peut juste espérer que la pandémie n'aura pas été qu'une parenthèse dans ce ralentissement du tourisme. Évidemment, ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut en parler. Vous avez, Catherine Le Gall, globalement, une vision assez critique de la politique climatique actuelle. Quel est votre regard précis sur la question des océans et de tout ce qu'ils comportent en termes de trésors? On a parlé de la pêche, il y a aussi les minerais. Alors, on a vu le président Macron exprimer son intérêt pour les ressources minérales qui reposent sur le plancher océanique. Il parle pour l'instant d'exploration et pas d'exploitation. Là, on est dans le plan France 2030. L'exploration, c'est un premier pas pour l'exploitation.
Exactement, tout à fait. Donc là, effectivement, il vient de débloquer plusieurs milliards pour explorer les fonds marins. D'ailleurs, il insiste bien là-dessus, mais un peu plus tard, il parle effectivement des nodules polymétalliques et de leur intérêt pour les nouvelles technologies, notamment pour la construction des batteries. Et il y a un gros enjeu aujourd'hui d'indépendance énergétique, et on le voit très très bien. Et donc, il semblerait assez étonnant qu'après l'exploration ne vienne pas le temps de l'exploitation, puisque les nodules polymétalliques sont très riches dans les fonds marins et que donc l'exploitation permettra à la France de pouvoir être indépendante, notamment par rapport à la Chine, qui est pour l'instant la première fournisseuse de terres rares. Donc oui, en fait, les océans, ils subissent aujourd'hui une double pression. Ils subissent une pression économique, comme on vient de le dire, c'est-à-dire avec la poursuite d'activités traditionnelles type transport maritime, type tourisme de croisière et des donc nouvelles technologies émergentes et des nouveaux champs émergents comme effectivement l'exploration et l'exploitation d'une polymétallique, les énergies renouvelables d'un côté. Donc les océans sont devenus le nouvel Eldorado des industriels et ce depuis à peu près 2015. Et d'un autre côté, il y a des gros problèmes. Enfin, je veux dire, les océans sont déjà le premier poumon de la planète puisqu'ils ont absorbé le tiers des émissions de CO2 depuis les années 80, donc ça nous permet quand même juste de survivre, nous les êtres humains. Ils ont des gros problèmes d'eutrophisation, d'acidification qui modifient terriblement leurs écosystèmes. Là, je lisais encore ce matin une tropicalisation des eaux atlantiques qui fait que les espèces de poissons migrent. Donc, ils subissent une double pression, une pression économique d'un côté, puisqu'après avoir quelque part dévasté la Terre, il n'y a plus trop de ressources à terre, on va se retourner vers les océans. Et puis, une pression écologique forte, puisque leurs écosystèmes sont dégradés. Cela a été énormément documenté. Et donc, on veut nous faire croire qu'on peut, en même temps, exploiter et en même temps protéger les océans. Et donc, il y a un concept pour ça que j'explore dans mon livre qui s'appelle l'économie bleue, qui est, je dirais, la jumelle du terme développement durable, qui est un peu la philosophie du en même temps. C'est-à-dire, on ne va pas s'interdire, étant donné les grosses problématiques sur les océans, de continuer à les exploiter, mais on va prétendre qu'on peut les protéger en même temps. Et donc, ce qu'on appelle une structure concessive, avec deux injonctions contradictoires, continuer à exploiter et en même temps protéger, c'est quelque chose, effectivement, que je questionne.
Contradiction que l'on retrouve aussi dans le terme pêche durable.
Sur la pêche durable, en effet, c'est un long chemin. Et là, il y a effectivement une problématique de savoir qu'est-ce qu'une pêche durable et puis savoir si la pêche durable se résume à la pêche à la ligne ou bien s'il y a d'autres types de pêche. Et c'est tout un concept qu'il faut explorer pour préserver les océans. Je veux dire, effectivement, la surpêche et la pêche durable font partie des activités traditionnelles qu'il faut continuer à améliorer. Et c'est vrai que je discutais avec une femme qui travaille dans la pêche depuis longtemps, qui disait « Nous, on ne va pas beaucoup plus vite que la société. » Donc, c'est vrai qu'il y a des temporalités là qu'il faut ajuster.
Alors, plusieurs questions, Catherine Le Gall. La première, c'est la façon dont vous avez mené votre enquête. Vous avez interrogé du monde, vous avez voyagé, vous avez lu des études. Vous évoquez les silences, l'opacité, les peurs de parler.
Oui, alors là, on parle plutôt de ce qui se passe dans mon coin. Après avoir exploré le concept d'économie bleue et vu les différentes activités polluantes qu'on continue à avoir sur les océans, je me suis interrogée sur qu'est-ce que ça veut dire, en fait. 80% de la pollution en mer vient de terre. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et donc, effectivement, dans mon coin, il y a des activités agricoles. On est en Bretagne et des exploitants qui utilisent des pesticides. Et on retrouve des pesticides, quelquefois même des pesticides qui ne sont plus autorisés à l'utilisation dans l'eau douce, des eaux douces dont les flux les amènent directement en mer et donc peuvent avoir potentiellement des impacts sur les organismes marins. Je parle notamment des problèmes de stock de théline dans mon coin qui déclinent. Et à ma grande surprise, en fait, il n'y a pas trop d'études qui ont été faites sur l'impact des pesticides sur les organismes marins. Et j'en cite deux. L'une qui montre très bien la manière dont les produits phytosanitaires vont avoir un impact sur le plancton qui est à la base de la chaîne alimentaire, et les pesticides par des mécanismes chimiques vont faire que le plancton toxique qui est moins sensible aux problèmes d'oxygène, donc à l'eutrophisation, le plancton toxique se retrouve dominant par rapport au plancton qui nourrit effectivement les poissons. Et donc là, comme les planctons sont à la base de la chaîne alimentaire, bah effectivement, si les poissons et les autres organismes ne trouvent pas de quoi se nourrir, forcément, le stock halieutique va se retrouver en voie de diminution. Et donc là, je refais un chemin vers la question que vous posiez au début. Est-ce qu'on peut imaginer que les pesticides qui ont un impact sur le plancton aient aussi un impact sur le stock halieutique et pas forcément que les marins pêcheurs? C'est une question que je pose. Voilà, donc il faut braquer les projecteurs sur ces produits phytosanitaires. Et il y a une autre étude qui a étudié l'impact du diurion sur l'huître creuse. Et celle-là, elle montre qu'il y a un impact sur le développement de l'huître creuse. Il y a même certains organismes marins qui vont avoir des impacts tels qu'on va se retrouver avec des cas d'hermaphrodite, mais aussi cette détérioration des organismes marins se transmet aux générations suivantes parce que le matériel génétique a été endommagé. Et donc là, on voit bien aussi que possiblement les stocks halieutiques se retrouvent victimes de produits chimiques dans l'eau et que cela a un impact sur leur développement, sur leur mortalité, sur des maladies et sur leur reproduction. Donc ça fait quand même beaucoup de choses qui peuvent aussi avoir un impact sur les stocks halieutiques en dehors de la pêche, je veux dire.
Et ce que vous évoquez, c'est précisément ces études qui tardent beaucoup à conclure aux conséquences directes de la pollution terrestre sur la pollution marine.
Mais comment dire, ceci dit, une fois que j'ai eu terminé d'écrire mon livre, d'ailleurs je le mets en conclusion, il y a quand même deux corpus d'études qui sont venus étudier ça, l'impact des produits phytosanitaires. Et d'ailleurs, dans Ouest France, il y a pas longtemps, j'ai lu des choses là-dessus aussi. Donc ça commence à émerger, à devenir un discours ambiant où effectivement c'est de plus en plus présent.
Et les algues vertes en France, on en voit aussi dans le sud de l'Europe l'été. Et puis la Turquie qui a été particulièrement impactée par une sorte de mousse blanche à la surface de l'océan. Catherine Le Gall, à quelques jours de la conférence sur le climat qui va se tenir à Glasgow, qu'est-ce que vous en attendez ?
Malheureusement, pas grand-chose, parce que si on continue dans la même voie que celle qui est tracée actuellement, c'est-à-dire une réglementation non contraignante, une possibilité pour les industries les plus polluantes de pouvoir compenser leurs émissions via l'achat de crédit carbone, si on confie la nature à des marchands qui prétendent pouvoir la protéger, et si on ne remet pas en question notre système de consommation et de production, je suis assez pessimiste. Et une fois de plus, quand vous dites que le livre est un cri du cœur, c'est vrai, parce que moi, je pense à mes enfants, je pense aux générations à venir, et à la fin du livre, je dis, rendez-nous notre écologie. J'ai l'impression que l'écologie actuelle a été dictée pour préserver les intérêts des multinationales. C'est une longue histoire, c'est pas un complot, c'est juste que ça a été fait comme ça, parce qu'il y a des porosités entre les différents milieux. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on se pose, d'ailleurs, je suis pas la seule à le dire, arrêtons de massacrer les ressources à terre, arrêtons de massacrer les ressources en mer, réfléchissons-nous le modèle occidental riche à la manière dont on consomme, dont on produit, arrêtons-nous, stop, et ayons une véritable action sur la pollution qui émerge de la manière dont on vit aujourd'hui.
Alors, est-ce que on peut dire qu'il y a une sorte d'accélération, Catherine Le Gall, on l'a bien vu, l'espace et aussi les océans, nouvelles frontières aujourd'hui pour la planète Terre, c'est un peu paradoxal, mais c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Et j'en reviens à la question des multinationales. Vous le dites, et quand je parle d'accélération, les lobbies, finalement, leur influence est très orchestrée, particulièrement depuis la COP21 de Paris. Tout ce monde-là s'est beaucoup organisé pour intégrer leur discours dans ce type de conférence, ce type de rencontre.
Oui, on peut dire un peu trusté, en fait, parce qu'effectivement, tant les associations professionnelles que les fondations philanthropiques que les ONG sont présentes dans ces COP. Et c'est vrai que lors de la COP21 qui s'est passée en 2015, par exemple, le WSCD, qui représente les 200 plus grandes multinationales, était quand même très, très présent. ils ont organisé ce qu'on appelle les side events, qui va favoriser finalement la rencontre entre des dirigeants politiques et des acteurs privés, de façon à instaurer cette porosité entre les milieux et faire valoir leur cause finalement. Et faire valoir leur cause, c'est quoi ? C'est surtout pas de réglementation contraignante, la neutralité carbone, la compensation carbone, le prix du carbone qui va inciter les industries polluantes à moins polluer, mais surtout pas d'action forte de la part des États. Et par exemple, en amont de la COP 15, il y a le Business Climate Summit qui a été organisé et dont le WSCD était partenaire. Et là, il y avait les plus gros dirigeants, ça s'est passé à Paris, avec des acteurs politiques de premier plan comme François Hollande, Laurent Fabius, Ségolène Royal. Et effectivement, avec tous ces outils d'influence, plus les fondations qui, en amont des sommets, organisent des réunions pour réunir différents chercheurs, plus les ONG qui proposent des solutions de marché, on se retrouve avec une sorte d'organisation en fait institutionnelle alternative qui va avoir un impact fort sur le climat. Et c'est vrai qu'il y a aussi, comment dire, une perméabilité de ce discours, puisque dès 92, par exemple, je parle du tandem Maurice Strong et Stéphane Schmidheiny, Maurice Strong étant président du Sommet de la Terre en 1992, et lui, il avait un pied dans l'industrie du pétrole et un pied dans la diplomatie climatique. Donc on voit bien que ces milieux-là naviguent, c'est le cas de le dire, dans les mêmes eaux, et que c'est pas très étonnant que la politique climatique préserve le secteur économique.
Alors WSCD, c'est le World Council for Sustainable Development.
Exactement.
Catherine Le Gall, qui est, vous le dites, l'un des plus importants lobbies du monde des affaires sur les questions d'environnement, avec l'industrie chimique qui domine l'association, puis le secteur automobile, et ensuite celui de l'agroalimentaire et les hydrocarbures. Catherine Le Gall, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire au jour d'aujourd'hui, à quelques jours de cette conférence sur le climat de Glasgow en Écosse, et en conclusion de votre livre finalement?
Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai envie de dire, rendez-nous notre écologie. En fait, que quelque part, l'écologie soit plus démocratique et qu'elle soit plus prise en charge par les citoyens. J'ai tout à fait conscience que mon livre est un peu poil à gratter, parce que j'interroge le rôle des ONG, mais c'est aussi pour interpeller les lecteurs et puis bien plus largement avoir un pied dans le débat public. Pour remuer un peu tout ça, et puis qu'on se rende compte qu'il y a peut-être d'autres voies, et que la démocratie reprenne sa place, je veux dire les citoyens, la démocratie dans le sens étatique du terme, et que peut-être il faudrait que les dirigeants politiques, comme Nixon dans les années 70, ne soient pas aussi frileux et prennent en charge leur rôle et assument le fait de vouloir limiter, parce qu'il faut limiter. Par exemple, l'extraction d'énergie fossile. Je suis pas la seule à le dire. Hein, l'Agence internationale de l'énergie le dit, qu'il ne faut plus investir dans les énergies fossiles. Et donc, que finalement, les États reprennent leur place. C'est un peu comme si on avait peur des États. Évidemment, comment dire, la chute du communisme est passée par là. Mais que les États reprennent leur place, que les citoyens reprennent leur place, que la démocratie reprenne sa place et soit un véritable contre-pouvoir vis-à-vis du secteur économique.
Alors, ce que vous appelez là aussi, alors on connaît bien la difficulté pour les États de conserver leur place, notamment avec les grandes entreprises du net. Enfin, en tout cas, c'est un élément. Et les multinationales qu'on évoquait là en sont un autre. C'est un appel à une sorte de gouvernance.
C'est-à-dire ?
Une gouvernance au niveau des climats, au niveau de l'écologie maritime, etc. Donc, d'une part, que les États reprennent leur place, mais au-delà de ça, qu'il y ait une véritable gouvernance. Or, ce qu'on évoque depuis le début de cette émission, c'est que finalement, on fait les choses, mais sans contrainte.
Oui, c'est ça, voilà. Et je l'ai compris. Une gouvernance dans le sens d'imposer. C'est marrant parce que Niels Moussu, donc, qui est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur le discours climatique des multinationales, dit « La preuve de l'efficacité de leur discours, c'est qu'aujourd'hui, il est encore actuel. » Mais la preuve de l'inefficacité de leur discours, et c'est qu'aujourd'hui, il est toujours actuel. C'est-à-dire que les solutions que proposaient les multinationales à l'issue du sommet de Rio sont toujours les solutions qu'ils proposent aujourd'hui. Et entre-temps, rien n'a bougé. Donc, effectivement, il faudrait une gouvernance avec des formes contraignantes pour les entreprises, parce que l'accord de Paris n'est pas contraignant, le Green Deal qui parle de neutralité carbone n'est pas contraignant, ce sont les entreprises volontaires qui peuvent compenser leurs émissions carbone, mais elles n'en ont pas l'obligation. Et d'ailleurs, on peut remettre en question aussi la neutralité carbone et la manière dont elle peut s'appliquer, si elle est même possiblement applicable. Mais effectivement, une gouvernance, en fait, j'ai envie de dire, il faudrait que la gouvernance dont on parle là n'ait pas peur de sortir le bâton de temps en temps. Il faudrait peut-être ranger la carotte et puis assumer son rôle de gendarme pour de vrai.
Merci Catherine Le Gall. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui vient de sortir. L'imposture océanique, le pillage écologique des océans par les multinationales aux éditions La Découverte. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Demain, nous parlerons des géants du net, véritable défi aux États du globe.